Incroyable nombre de choses qui peut se passer dans ce petit cube. Et là, vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes donc dans la synagogue, c'est-à-dire là où on dit les offices religieux. Je suis toujours soufflé de la manière dont le lieu change en fonction du nombre de personnes présentes. On ne se rend pas tellement compte ce que ça peut être quand c'est plein, 350 personnes, mais c'est bouillonnant d'activité. Voilà donc le MGF. Donc moi, je suis rabbin. 7 ans ici au GLF, j'ai exercé d'autres fonctions avant, toujours dans cette même communauté. Et je suis aussi président d'une association des Voix de la Paix, une association interconfessionnelle qui veut rassembler non seulement toutes les spiritualités, toutes les religions, mais au-delà des spiritualités non religieuses, parfois même historiquement un petit peu opposées, donc les francs-maçons, solidarité laïque, la ligne de l'enseignement, etc. Une association que j'ai fondée après les attentats de 2015 pour contribution citoyenne de là où je suis, mais ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, si ça vous intéresse, bien sûr, je vais en parler. Le sujet de ce soir, je crois que Xavier m'avait dit que vous aviez déjà eu donc Claude Virman, qui nous a parlé un petit peu des grandes phases du judaïsme, la Bible, Moïse, la destruction du temple, la diaspora, ce genre de choses.
Tout à fait.
Vous avez eu le rabbin aussi, un autre rabbin,
Moshe
Sebag, qui vous a parlé des fêtes, de la manière dont on vit, parce que j'ai compris concrètement le judaïsme au quotidien, et puis la constitution du judaïsme consistorial. Et avec Xavier, on avait jugé, Xavier avait jugé intéressant que je puisse vous parler de deux, trois choses, à savoir le passage du judaïsme du temple au judaïsme rabbinique. Parce que c'est vraiment un moment fondamental où tout est changé, où le judaïsme est totalement redéfini. Et donc, ce qu'on a appelé la révolution rabbinique, en quelque sorte, on a l'impression qu'il y a eu des rabbins de toute époque, en fait, c'est totalement faux, c'est historiquement daté, et ces rabbins, ils ont accompli une œuvre bien particulière après la destruction du temple. Je pense que ça vaut le coup de revenir là-dessus, parce que c'est vraiment une des spécificités du judaïsme. Une annexe de ce même sujet, ce sera la littérature rabbinique, peut-être que ça va en. Le Talmud, qu'est-ce que c'est, enfin, les différents livres, donc l'idée un petit peu de ce qu'on appelle en hébreu la bibliothèque juive, voilà les différents textes qui constituent nos références. Il y avait un deuxième gros sujet, c'est les différentes sensibilités du judaïsme. C'est quoi le judaïsme orthodoxe, c'est quoi le judaïsme libéral, les Lubavitch, les Hasidim, Dieu sait s'il y a beaucoup de courants, de toute façon déjà deux juifs, trois opinions, hein, comme on dit, hein, donc c'est valable aussi d'un point de vue religieux. Et puis un point sur le Shabbat aussi, alors ce sera un peu plus déconnecté des deux autres sujets, mais de toute façon, mon exposé n'a pour but que de susciter aussi vos questions, et puis je les prendrai bien sûr dans l'ordre où elles se présentent. Voilà. Donc on a peut-être, je sais pas, trois quarts d'heure d'exposé, un peu une heure d'exposé, plus une demi-heure
d'échange.
Plus une demi-heure d'échange. D'accord. Alors, je vais donc parler, mais n'hésitez pas, vraiment s'il y a un truc qui n'est pas clair, qui mérite une question à la volée, qui mérite vraiment un point d'éclaircissement, n'hésitez pas à la poser en direct, n'attendez pas forcément la fin, si ça vient empêcher la compréhension. Je voulais vous parler, moi, plutôt, dans un premier temps, effectivement, du passage du judaïsme biblique au judaïsme rabbinique. Parce qu'en fait, c'est une véritable révolution, il y a peut-être une disruption aujourd'hui, une révolution accomplie par les rabbins. Le judaïsme biblique, on vous a sûrement parlé, d'abord, on y a accès dans la Bible, avec des grands personnages, un judaïsme prophétique. Abraham, le premier prophète, c'est le premier à bien appeler prophète scripturaire, reconnu, Jérémie, Ézéchiel, tout scripturaire parce qu'ils ont laissé des livres. Il y a des personnages qui sont des prophètes, qui n'ont pas nécessairement laissé des livres, mais qui ont cette qualité de pouvoir recevoir la parole de Dieu et de la transmettre. Donc voilà, ce judaïsme, il est connu par le récit de la Bible. Après l'installation des Hébreux en terre d'Israël, il y a plusieurs phases. Il y a les prophètes, des juges, etc. Ce sont des personnes à la fois charismatiques qui cumulent plusieurs pouvoirs, qui accumule un pouvoir de prophétie, donc un pouvoir de transmission, un leadership spirituel. Souvent, ce sont des combattants aussi, des rois, des guerriers, des juges, ils accumulent un petit peu toutes les fonctions. Et puis après, tout ça se structure dans des institutions politiques, bien sûr, David, Salomon, Saül, le premier roi, etc., etc. Les destructions, les différents royaumes, Juda, Israël, tout ça, je pense, vous connaissez. Et on arrive à une catastrophe absolument, je ne vais pas en rappeler les circonstances historiques, parce que celle-là, je pense que vous les connaissez, à moins que vous disiez que j'y insiste, donc la destruction du temple. Alors, je vais quand même ramener, réexpliquer les causes factuelles. Donc, alors, je vais partir du coup, après la mort de Salomon, il y a une division, donc un royaume unifié d'Israël, qui représente une espèce d'idéal dans l'histoire juive. On sait que c'est une histoire un peu recomposée, parce que les historiens sont plus subtils que ça. Mais après Salomon, qui représentait le summum, quelque part, de la puissance du royaume juif, le royaume est scindé en deux, avec un royaume d'Israël au nord, qui a pour capitale Samarie, et un royaume de Juda au sud, qui a pour capitale Jérusalem. Ces deux royaumes sont très disparates. Géographiquement, le territoire du nord d'Israël couvre à peu près l'équivalent de 10 tribus. Et Jérusalem, enfin, pour ceux qui sont allés en Israël, c'est ancré sur un petit caillou rocheux, c'est accroché. Là. C'est certes prestigieux parce que c'est le centre, d'abord, ça, c'est un peu le barycentre des différentes tribus. Il y avait un embryon de pouvoir politique fondé par David, avec un début d'administration centralisée. Mais en tout cas, effectivement, c'est tout petit. Il se trouve que le royaume d'Israël était d'ailleurs beaucoup plus florissant économiquement, très décrit dans la Bible, c'est là où c'est intéressant, il y a une différence de lecture dans la Bible depuis le travail des historiens. Évidemment, la Bible a été écrite du point de vue des vainqueurs, mais sur le plan, c'est le milieu de Juda qui s'exprime dans le milieu religieux, et il considère effectivement le royaume d'Israël comme des mécréants. En réalité, on pense aujourd'hui que c'était des gens beaucoup plus ouverts effectivement, sur les peuples environnants, les Moabites, les Assyriens, etc. Ils faisaient beaucoup de commerce, c'était beaucoup plus florissant, sans doute moins cohérent d'un point de vue religieux, mais bon voilà, Israël était extrêmement décrié, mais on pense que c'était un royaume plutôt très florissant. Toujours est-il que, effectivement, en moins 722, ce royaume est détruit suite à une série d'alliances désastreuses. Il faut pour bien comprendre pourquoi Israël n'a jamais été puissant, enfin, ou la difficulté d'Israël d'être puissant, il faut comprendre la géographie fondamentale du Moyen-Orient, qui est toujours d'ailleurs actuelle. Hein, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Hein, on part à peu près du territoire de l'Irak, donc la Mésopotamie, Mésopotamos entre les deux fleuves, donc le Tigre et l'Euphrate. Et donc ça représente une oasis dans un désert, dans une immensité de désert. Ça remonte jusqu'au sud de la Turquie et ça redescend sur le couloir qui est aujourd'hui Israël. Et donc vous avez connecté en fait deux royaumes, enfin deux zones géographiques qui ont été toujours hyper puissantes, à des moments différents, la Babylonie d'un côté, et quand on remonte de l'autre bout de côté, l'Égypte, qui sont les deux superpuissances régionales, en tout cas de l'époque biblique. Et comme ces superpuissances ont souvent été en contact, elles se rencontrent sur le chemin, alors plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, plus ou moins, mais c'est donc sur le chemin d'Israël. Donc Israël a été constamment un champ de bataille et un champ d'influence pour les deux grandes superpuissances les Babyloniens, les Néo-Babyloniens, les Assyriens, quelles que soient les dynasties concrètes qui ont incarné cette puissance, et de l'autre côté, le pouvoir égyptien. Donc, suite à une série d'alliances désastreuses, les Assyriens, la nouvelle puissance du 8e siècle avant la chrétienne, prend le pouvoir, détruit le royaume de Jérusalem, et donc ne reste plus comme expérience juive que le royaume de Juda, qui donc accroché à son petit rocher, mais qui représente, c'est vrai, le centre un peu politique et spirituel. Ce royaume de Juda survit difficilement, 150 ans de plus, avant d'être lui-même un petit peu écrabouillé par Nabucodonosor, qui donc détruit Jérusalem en moins 597 et en moins 587, de destruction, et inaugure la première déportation de l'histoire. Toutes les élites sont déportées en Babylonie, avant que Cyrus, 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, n'autorise les Juifs à retourner en Israël, donc à la première destruction du temple, à reconstruire un deuxième temple, et donc va s'ouvrir une période qu'on appelle la période du deuxième temple, avant que la nouvelle puissance, l'envers du bassin méditerranéen, ne fasse son temps, d'abord les Grecs, Alexandre, Naxos. Et ensuite, les Romains, en moins 63 très précisément, qui étaient alliés d'ailleurs des Juifs de la dynastie hasmonéenne, mais ça va rapidement dériver, mal tourner, et les Romains vont occuper la Palestine, donc c'est, la Palestine, c'est le nom administratif qu'ils vont leur donner, et il y aura des révoltes qui vont se terminer en 70 par deux événements, la chute de Masada, que vous connaissez peut-être quand on visite Israël, cette espèce de piton rocheux où les Juifs retirés se sont tous suicidés collectivement pour ne pas être pris, et surtout la destruction de Jérusalem, destruction du temple. Alors ça, c'est vraiment important, parce que la destruction du temple, en bonne logique, aurait pu signifier la fin absolue et du peuple juif et du judaïsme. Pourquoi ? Parce que ce judaïsme était un judaïsme agricole, d'une société agricole, et le modèle religieux de ce judaïsme, celui précisément qui se déploie dans la Bible, enfin pas dans les sagas fondatrices, mais de la royauté, etc., eh bien, c'est un judaïsme avec un temple central. Dans ce temple, il y a un personnel religieux spécialisé, les Kohanim, donc les prêtres, les Lévites, les Lévites, qui sont autant de tribus de Lévi, qui servent le temple. Et la religiosité, elle s'exprime, c'est une religion des sacrifices, où trois fois l'an, on monte à Jérusalem, c'est ce qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Shavuot, Sukkot. Pessah, c'est la Pâque juive, Shavuot, c'est la fête des semaines. Pourquoi ? Parce que 7 semaines plus tard, 50 jours plus tard, c'est l'origine de la Pâque chrétienne, bien entendu, on monte aussi au temple, et Sukkot, la fête des cabanes. Voilà, on vient juste de terminer la célébration de la fête des cabanes. Donc, on montre en masse, et ça on le sait par les témoignages historiques, que vraiment ça marchait. Hein, le paysan du coin, qui habite en Galilée, au sud, à l'est, etc., va à Jérusalem, monte, achète, ou alors vient avec son propre bélier, enfin les animaux qu'il faut sacrifier. Il arrive au temple, et là, il y a un personnel religieux spécialisé qui est chargé de sacrifier sa bête. Donc voilà, il y a un transfert symbolique pour expier ses péchés, etc. Et puis, 7 jours plus tard, en fait, le pèlerinage dure 7 jours, il repart chez lui. Et c'est ça le judaïsme. C'est un judaïsme du temple centralisé, avec des experts, en quelque sorte, un peuple et des experts, centralisé dans un temple, et un judaïsme qui n'est absolument pas un judaïsme d'études, ni quoi que ce soit, tout ça n'existe pas encore, c'est un judaïsme du sacrifice. Le sacrifice étant, dans la psyché religieuse du Moyen-Orient, quelque chose d'absolument fondamental. Donc voilà, rapporté au judaïsme, ça donne ça. Le temple est détruit. Toute la caste des prêtres et des lévites sont massacrés, ça on le sait. Il y a des croix partout dans toute la Judée, Samarie, etc. C'est assez sanglant. Plus tard, bien sûr, la ville va être renommée, même le nom même de Jérusalem va être détruit, et la ville va être renommée Aelia Capitolina, pour faire disparaître la mémoire juive aussi, bien sûr. Il faudra attendre les Arabes en 637 pour que les Juifs puissent réintégrer, là, parce que les Juifs sont interdits de citer. Donc une destruction totale, et du personnel religieux, et du lieu central qui exprimer la religiosité. Enfin, je n'avais pas le judaïsme, c'était le temple et les sacrifices, trois fois par an, point barre. Et donc, dans toute logique, le judaïsme aurait dû être détruit, sauf que, dès le moins premier siècle, il y a un milieu, alors là, ce serait trop long d'écrire d'où ils viennent, etc., mais qui vont devenir les rabbins, ce qu'on appelle le mouvement rabbinique. Donc déjà, la première nouvelle, c'est que les rabbins n'ont pas existé de toute éternité. Il y avait des limites, des koanim, mais rien à voir avec les rabbins. Les rabbins, c'est un mouvement sociologique et idéologique bien déterminé. Donc l'idée, le moins premier siècle, en Galilée principalement, Jésus sera issu de ce milieu, on les appellera les pharisiens dans un premier temps, et ils deviendront les rabbins, qui ont une vision de la religion un petit peu plus intériorisée, on va dire, moins axée sur les sacrifices, un petit peu plus intériorisée. Et quand la destruction du temple intervient, alors eh bien, ce milieu qui entre-temps a commencé à se constituer, a commencé à enseigner, encore une fois Jésus est issu de ce milieu, il avait pour maître Hillel, l'un des plus fameux pharisiens, un judaïsme qui commence à, qui discute, voilà, qui s'oppose même à une certaine hypocrisie du temple. On connaît les dénonciations de Jésus du temple, du marchand du temple, mais il n'a rien inventé. Il est beaucoup plus virulent que lui, même chez les rabbins, que Jésus. Et donc, c'est ce mouvement rabbinique donc, essaye de prendre le pouvoir, le leadership, pour donner une autre orientation au judaïsme, parce que sinon, le hardware a été cassé, il faut réinventer le software. En fait, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Alors, on pense, là je vous donne une présentation un petit peu rapide, les historiens aujourd'hui savent que ce leadership des rabbins ne s'est pas installé du jour au lendemain. Il a fallu 100 ans, 200 ans, etc. Et finalement, ils ont effectivement gagné. Le judaïsme aujourd'hui est un judaïsme pharisien, est un judaïsme rabbinique. Il n'y en a pas d'autres. Il y a eu des tentatives dans l'histoire d'en avoir d'autres, les Karaïtes, etc. Mais c'est vraiment les rabbins qui ont effectivement prévalu. Donc, je vous raconte l'histoire de manière un peu rétrospective. Ces rabbins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont dû tout réinventer, parce qu'encore une fois, je me répète un peu, mais il n'y a plus de temple, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus de sacrifices, il faut tout réinventer. Et ils vont réinventer, reposer, refonder le judaïsme sur trois bases. Un judaïsme de la prière, un judaïsme de l'étude, Talmud Torah, je vais donner un sens précis à ça, et un judaïsme de la halakha, de la loi juive. Trois choses qui n'existaient pas, la halakha. Loi juive. Voilà. Quand on dit la halakha, ça veut dire que c'est la loi juive, donc l'ensemble des commandements. Je vais détailler un petit peu ce que ça veut dire. Le mot même vient d'une racine qui veut dire cheminer. Donc il y a une notion de dynamique. Mais bon, retenez halakha, loi juive, pour l'instant, c'est amplement suffisant pour ce qu'on a à dire. H-A-L-A-K-H-A-H. H-A-L-A-K-H. K-H, c'est le son R. K-H-A-H. Pas le H, ça marche pas. Voilà. Alors, je vais commencer par la prière, parce que ça, c'est vraiment intéressant en termes de symbolique et en termes de plasticité. Voilà, comment réinventer les choses. Les sacrifices n'existent plus, les rabbins ont installé la fiction que selon laquelle ce qui compte désormais c'est le sacrifice du cœur. On sacrifie plus des animaux puisque c'est plutôt, mais c'est le sacrifice du cœur. Et ils vont développer donc la prière comme une activité religieuse à part entière. Et il faut bien se rendre compte quand même que ça nous paraît absolument banal aujourd'hui de prier, toutes les religions prient, etc. Mais c'est quand même complètement original de concevoir le fait de s'asseoir ou d'être debout, de parler à Dieu, ça n'existait pas. Je veux dire, la prière n'existait pas. Il y avait dans le temple effectivement des formules que l'on récitait à l'occasion d'un sacrifice, il y avait une bénédiction auquel pouvaient répondre les gens, etc. Donc il y avait une interaction, il y avait du langage, il y avait dans les pratiques magiques du Moyen-Orient, le langage était toujours associé, mais à un geste. Voilà. Mais l'idée que, en faisant rien de particulier, on s'assoit ou on reste debout et on parle à Dieu suivant une manière ordonnée, donc ils vont tenir les prières et les livres de prières, c'est en fait une révolution totale, c'est une révolution de la parole totale. Donc ils vont formaliser un ensemble de textes, matin, soir, Shabbat, voilà, un ensemble de prières, sur cette fiction donc que désormais la prière symboliquement remplace le sacrifice. Il faut bien se rendre compte que dans la psyché un petit peu, je ne vais pas dire primitive, mais primaire, le sacrifice avait une grande fonction, je veux dire, aller sacrifier sa bête, c'est sacrifier ses péchés, c'est se décharger, c'est repartir à zéro, enfin, c'est la psychanalyse de l'ancien temps. Quoi. Et donc, ils ont dû batailler idéologiquement, on le sent d'ailleurs dans le texte des prières, pour installer que fonctionnellement la prière soit la même chose que le sacrifice, que ça marche, que ça expie, que ça procure l'expiation, etc. C'est un gros boulot idéologique qui s'est fait sur plusieurs centaines d'années. Mais ça, c'est génial. Donc, c'est la première révolution géniale. Les rabbins ont inventé la prière comme une activité religieuse en soi. Et évidemment, ça va passer dans toutes les autres, dans tous les autres monothéismes. Oui ?
Ils inventent la prière, ils créent dans son autre texte. Ils le créent ex nihilo.
Ah, ils le créent pratiquement ex nihilo. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà un peu des antécédents. Le premier antécédent, c'est intéressant d'ailleurs, c'est que le judaïsme finalement est né en diaspora. Lorsque les juifs ont été déportés à la destruction du
premier temple, en 597. Loin du temple, il y a déjà eu une expérience où les gens se rassemblent dans ce qu'on appelle des Beth Aknesset, des maisons de rassemblement. Beth Aknesset, en fait, en hébreu, c'est la synagogue. Mais la synagogue, c'est un mot grec. Beth Aknesset, ça dit bien on se rassemble. Et qu'est-ce qu'on fait? On discute. Alors, on est en exil, sous un pouvoir politique qui n'est pas le nôtre. Ceci dit, qui est plutôt cool. À preuve, c'est que quand Cyrus a dit aux Juifs, vous pouvez retourner à Jérusalem, en fait, il était très bien, il s'était installé, c'était déjà la troisième génération, donc il a fallu un Néhémie ou Ezra pour organiser des retours un petit peu plus vigoureux. Mais donc dans ces maisons de rassemblement, on commençait à parler, donc se rassembler, discuter des affaires communautaires, mais aussi commencer à prier. L'embryon de la prière est né justement de l'éloignement, du fait de trouver un substitut, je veux dire, à la présence réelle. Donc on pense que vraiment le premier embryon des prières juives est né en exil, à l'exil de Babylone. Ceci dit, là je veux dire, nécessité faisant loi, vraiment en 70, les rabbins inventent tout un tas de prières pratiquement ex nihilo. Ça, c'est, et ils la codifient, les séquelles de bénédiction, enfin, ils conçoivent vraiment toute la liturgie est née vraiment, ça c'est le premier axe de la révolution rabbinique. Le deuxième axe de la révolution rabbinique, c'est justement la halakha. La halakha, la halakha, donc la loi juive, eh bien c'est la tentative d'organiser tout simplement le quotidien selon la Bible, parce que la Bible était un livre, une saga nationale, on y trouve des histoires, on y trouve certes des commandements, des choses à faire, on y trouve tout un tas de choses, un peu de philosophie, et voilà, mais les rabbins ici vont se faire juristes, ils vont écrire le premier livre post-biblique qui s'appelle la Mishnah. C'est un terme que vous ne connaissez peut-être pas, mais la Mishnah, c'est vraiment un code de loi, 63 tomes, qui couvre tous les domaines de la vie, les relations commerciales, les relations conjugales, la liturgie, les semences, c'est-à-dire l'agriculture, etc. C'est un code de loi qui couvre tout. Donc, normativiser la vie juive, enfin, voilà, trouver des normes à la vie juive. Et ça aussi, c'est une révolution durable, parce que le judaïsme a gardé, est une religion de la loi. Quelle que soit la manière dont on puisse faire évoluer cette loi, et on en parlera dans le judaïsme libéral, peut-être même le statut de la loi, l'envisager d'une manière un peu différente, mais le judaïsme est une religion de la loi, et ça, c'est les rabbins qui l'ont vraiment posé comme substitut, encore une fois, à la vie religieuse centrée autour du temple. Et puis la troisième révolution, c'est vraiment la Torah. La Torah, alors au sens étroit, enfin, il y a un sens étroit et un sens large. Le sens large, la Torah, c'est la sagesse juive, les enseignements du judaïsme, etc. Sauf qu'en termes de corpus, la Torah, c'est une définition bien précise, c'est le Pentateuque. La Torah, c'est les cinq livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ça la Torah. Eh bien, les rabbins, et donc la Torah était un code de loi qui avait été déjà canonisé il y a bien longtemps, on pense en 622 sous le roi Josias, c'est le premier ensemble de textes canonisés. Deux autres parties de la Bible juive, les prophètes et les hagiographes seront canonisés plus tard, mais c'est un autre sujet. La Torah était un livre pieux, enfin, je veux dire, voilà, qui conservait une mémoire nationale, une saga nationale, la saga du peuple hébreu, etc. Mais religieusement, on n'en faisait rien de spécial. C'était un livre d'où il ne veut pas y avoir d'ailleurs beaucoup d'exemplaires, qui devait être pieusement conservé dans un coffre du palais royal. Les rabbins, ça avait déjà commencé au moins 1er siècle, comme je vous l'ai dit, avec cette conception d'une religion plus intériorisée. Les rabbins vont mettre la Torah au centre de l'expérience juive. Ils vont dire ce livre, il faut le tourner et le retourner, c'est la formule traditionnelle, parce que tout s'y trouve. Le texte de la Torah devient un sujet d'étude et l'étude devient un acte religieux. C'est-à-dire que, à la limite, et selon un principe de charité, comme on pourrait dire, c'est-à-dire que ce texte, même si objectivement parfois on ne voit pas forcément une profondeur a priori, il faut se forcer à y voir une profondeur, il faut exiger de lui des choses. Et le judaïsme, en fait, d'un judaïsme charismatique, du temps des juges et des guerriers, d'un judaïsme du temple, le statutaire, avec les grands prêtres et les lévites, va devenir un judaïsme de l'étude. Les rabbins, en fait, ont inventé l'étude, l'idée qu'effectivement, mettre autour d'une table, étudier ce texte, le tourner et le retourner dans tous les sens pour y voir des profondeurs. Et c'est l'invention, bien sûr, de l'herméneutique juive avec les quatre niveaux d'interprétation que le christianisme a repris. Et, dans le judaïsme, ça se trouve de manière un petit peu plus différente. La manière juive d'interroger les textes, c'est intéressant là cette fois-ci de le dire en hébreu, c'est l'hidroche, le drash, drasha, c'est-à-dire d'exiger quelque chose du texte. C'est-à-dire que c'est l'invention, vous savez sans doute, des quatre niveaux. Il y a un niveau littéral, appelé le pshat, le niveau saint, le texte, il a un sujet, un verbe, un complément, il dit quelque chose, voilà, il faut déjà le comprendre, mais ça ne suffit pas. Il faut exiger du texte qui donne plus que ce qu'il a. Alors ça paraît un petit peu fantaisiste, on peut faire un cours entier là-dessus, hein. Je m'excuse d'être très synthétique, mais en tout cas, ça c'est fondamental pour comprendre la manière juive d'interroger les textes, et on le retrouvera dans les différentes sensibilités du judaïsme. Voilà, on exige plus, normalement, on met notamment un texte en rapport avec un autre, comme disait Edmond Jabès, il suffit que deux textes aient la même lettre en commun pour qu'ils aient quelque chose à se dire. Donc, tout ça paraît très poétique, très fantaisiste, mais c'est vraiment fondamental. Alors, il y a le littéral, le pshat, il y a ce qu'on appelle le remez, le niveau allusif, c'est-à-dire que, ah oui, ce verset, il rappelle un autre, etc. Donc, du coup, on peut mettre en équivalent. Il y a le drash, c'est-à-dire qu'on exige du verset des choses qui ne s'y trouvent pas de manière manifeste. Donc, c'est vraiment aller chercher l'implicite à des niveaux, à travers des techniques, hein, puisque c'est le développement de cette hermétique juive, des raisonnements a priori, a posteriori, la comparaison, enfin, il y a 32 principes exégétiques. Herméneutique juive, et le dernier degré, c'est le degré du sod, le degré du secret, là où il y a encore, on essaie de manifester de l'implicite avec d'autres techniques encore. C'est un peu théorique ce que je vous dis, parce que c'est une reconstruction à posteriori, même d'ailleurs dans le christianisme, il y a les quatre niveaux, etc. C'est une belle théorie, maintenant l'herméneutique réelle ne fonctionne pas vraiment comme ça, mais le principe reste valable, à savoir à minima il y a un sens simple et il y a un sens construit par un certain nombre de techniques.
Ils auront une conférence d'herméneutique.
Ah bah très bien.
Avec un rabbin, et un imam qui dialogue ensemble sur les herméneutiques.
Parfait, c'est très très intéressant.
Oui. Une petite question par rapport à la Mishnah. Est-ce que c'est un exégèse de l'étude de la Torah ?
Alors, bonne question. Parce que la Mishnah, qui se veut, bon, c'est le premier texte post-biblique, et il se veut en héritier de la Torah, en réalité, c'est une œuvre totalement a priori de juriste, qui pose le droit, qui pose la loi, qui justifie a posteriori par moult versets en disant mais oui, comme il est dit dans la Torah, etc. Alors c'est vrai que dans la Torah, il y a des commandements. On dit qu'il y en a 613. Au passage, la notion qu'il y a 613 commandements, c'est un commentaire parmi d'autres d'un rabbin, d'ailleurs c'est assez génial, c'est un rabbin pas le plus connu, qui dit à un moment, il y a 613 commandements, 365 commandements négatifs, autant que de jours de l'année pour te dire que chaque jour tu peux faire un commandement, et 248 positifs, autant que de membres du corps, selon la médecine, à mon avis, un petit peu approximative, pour te dire que avec chaque membre du corps, tu peux faire une mitzvah, tu peux faire un commandement. Donc on voit bien qu'on est dans un type d'explication symboliste. Mais ce qui est génial, c'est que ce rabbin, il a juste dit ce que je viens de dire là, sans justifier, sans dire quels étaient les commandements. Et du coup, il a donné le départ à une immense littérature, mais c'est quoi ces 613 commandements ? Donc là, je veux dire qu'on a des centaines, enfin même des milliers d'années, il y a eu des livres de mitzvot avec des listes, etc. Et évidemment, il n'y avait aucune liste qui coïncidait avec une autre, jusqu'à ce que deux, trois grands livres surnagent et supplantent les autres. Et voilà, donc il y a effectivement des commandements, 613 dont on entend dans la Bible, mais certainement pas assez pour couvrir tous les aspects de la vie quotidienne. Et ces rabbins, en fait, ont fait œuvre de juristes de manière totalement a priori. Et le lien avec la Bible, il est très rétrospectif et très a posteriori. Voilà. Oui.
J'ai juste une question. Si je comprends bien votre développement sur le fonctionnement et l'apparition a posteriori de la destruction du temple, pourquoi est-ce qu'on a une liturgie qui apparaît ? On pourrait très bien avoir une religion sans aucune liturgie, sans aucun clergé. Ça pourrait être une religion très individuelle. Lorsque vous avez présenté, chacun pourrait la pratiquer pour soi, avec soi, entre soi.
qu'est-ce qui explique qu'on est derrière une organisation liturgique, une organisation sacerdotale, si je veux dire?
Alors, oui, c'est vrai, ça aurait pu venir d'une religion totalement individuelle, etc. Mais il y a quand même une expérience juive, il y a quand même une histoire juive dont les rabbins ont essayé d'être les dépositaires, la transmission d'une identité. Enfin, les rabbins se sentaient investis du devoir d'organiser collectivement, enfin, de donner une suite collective à ce peuple juif qui avait quand même toute une histoire, qui avait déjà subi des déportations, des retours, des... Donc je pense pas qu'une telle, quand bien même ils ont inventé et fait la révolution et créé des choses totalement nouvelles, je pense pas qu'ils auraient pu s'affranchir totalement de ce qui existait, avant. Par exemple, la liturgie, ce qui est intéressant dans la prière, pour montrer justement le travail de transfert symbolique, je pense qu'il aurait été totalement impossible de se pointer devant les gens et dire « bon, les sacrifices n'existent plus, on va inventer les prières, maintenant on va dire tel ou tel texte, etc. » En fait, quand on regarde la liturgie, elle est intégralement calquée sur plein de choses du temple. Il y avait trois sacrifices, le matin, l'après-midi, le soir, il y aura trois prières, le matin, l'après-midi, le soir. Puisque là, il faut arriver à installer l'idée que la prière se substitue au sacrifice et que ça marche, que ça produit, que ça procure l'expiation. Il y a des sacrifices, il y avait des sacrifices supplémentaires à Shabbat, hop, il y aura une prière de Moussaf, c'est-à-dire une prière supplémentaire à Shabbat. Formellement, les rabbins ont tissé, ont cessé de puiser dans ce qui existait au temple pour en donner un équivalent liturgique. C'est un vrai travail intellectuel intéressant, à la fois totalement novateur, mais qui essaye de reprendre des formes et de les investir de manière... Mais pour répondre à votre question, les rabbins se sentaient investis de la mission de donner une suite au peuple juif, qui aurait très bien pu d'abord physiquement disparaître, il l'avait partiellement, et de continuer l'histoire. Donc je ne pense pas qu'ils se seraient dirigés spontanément vers une forme de religion individuelle. Il y a toujours eu une psyché collective très très forte dans le, chez les Hébreux et chez les Juifs.
Une question sur une conférence sur l'attachement à la terre, le positionnement à symbolique du temps.
Oui.
Vous avez une conférence qui expliquait que quand Cyrus a dit que l'on a Jérusalem, on avait des traces anthropologiques qui étaient la tentative de reconstruire la croisade du temps. Ça s'en fait rien, ça s'en fait. La révolution du charismatique à l'institutionnel,
à l'étude, on va dire,
Il y a quand même encore, et on le sent, cette vision, c'est un peu très fort. Cet attachement au temple, qu'en est-il alors, qu'en était-il déjà à la fin du XXe, quand on a commencé à réimaginer le réinvestissement sur la vie personne? Est-ce que c'était dans les esprits?
Alors là, on fait un saut dans le temps et un saut conceptuel, parce que là, le fin 19e, 20e, là, on est dans autre chose. Ce que je veux dire, c'est que la révolution rabbinique, je ne dirais pas s'accompagne d'une dévalorisation de la terre, mais c'est certain que le type de judaïsme qu'il propose s'éloigne un petit peu de cette prégnance de la terre et de la centralité de Jérusalem. À preuve, c'est ce judaïsme qui va vraiment permettre la survie du peuple juif dans des lieux très très différents, très éloignés. C'est-à-dire, c'est l'invention aussi du, pas dire du judaïsme de diaspora, parce qu'il y avait des diasporas, mais c'est vrai que étudier, on peut le faire n'importe où sur la terre. Donc les rabbins n'avaient évidemment pas de mépris de Jérusalem, mais de toute façon, il n'y avait plus le choix, il n'y avait plus de souveraineté politique juive, il n'y avait plus de royaume, il n'y avait plus de... Donc ce judaïsme de l'étude, il pouvait très bien se satisfaire d'être totalement hors sol, et c'est ce qu'il a été pendant à peu près 20 siècles. Je ne sais pas si je réponds à ce que vous dites. Et au 19e et 20e siècle, c'est une toute autre histoire. Pourquoi le peuple juif réinvestit la terre? Alors au passage, les Juifs n'ont jamais quitté la terre, même si effectivement les nombres ont été très faibles, de 0 à 600, ils ont été pratiquement inexistants puisque les Juifs étaient interdits. Il a fallu les conquêtes arabes de 634 pour permettre aux Juifs un retour. Et il y a toujours eu des Juifs sur cette terre, en particulier à Jérusalem, très très pauvres, alors institutionnellement très très faibles, etc. Une renaissance au 16e siècle assez intéressante en Galilée, mais pour parler de votre question sur le 19e, 20e siècle, là c'est une toute autre histoire et qui s'inscrit dans un tout autre projet intellectuel. Pour comprendre le sionisme et la résurgence, enfin, c'est pas la résurgence du sionisme, il y a toujours eu un sionisme religieux un retour à Sion, etc. Qui au passage a envoyé ces petites quantités de gens à chaque génération, un Yehuda Lévi au Moyen Âge, au XIe siècle, voilà, fait le, enfin, chante le retour à Sion, etc. Il le fait à la fin de sa vie. Il meurt, un Maïmonide lui-même, ira. Bon, mais voilà, il y a toujours un sionisme religieux, mais le sionisme au sens, j'ai envie de dire, sérieux, moderne du terme, politique, il s'inscrit, il est fils de la révolution, et il est fils du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, enfin de cette histoire des nationalités. Le truc, c'est que, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il vient un petit peu après, les Balkans, après les Grecs, après les Serbes, etc., tous ces peuples qui obtiennent leur nationalité, obtiennent leur état-nation. Il est fils de ça, et il est fils vraiment d'une analyse d'Herzl, choqué. Ben, Herzl est un jeune auteur à succès qui est envoyé par son journal, Freien de Presse, couvrir le procès Dreyfus. Et c'est vrai qu'il est choqué, et il n'était absolument pas proche ni de la tradition, ni d'un nationalisme juif quelconque. Il est absolument choqué de voir la dégradation du capitaine Dreyfus et cette foule scandée mort aux juifs. Et il dit, voilà. L'antisémitisme, bien que les sociétés européennes aient donné la citoyenneté aux juifs, la France les premiers bien entendu, l'Allemagne en 1871, l'antisémitisme restera, ne sera jamais résiduel, il est structurel, en tout cas c'est son analyse. Et la seule solution, c'est de retrouver un État-nation, et pas n'importe où, sur le lieu historique où s'est construit le juif. C'est ça son analyse, c'est très différent de... Je pense du judaïsme religieux. Enfin, le type d'analyse qui mène au sionisme politique s'emboîte dans le judaïsme religieux, mais en réalité, culturellement, il est fils des Lumières, il est fils de l'histoire européenne, il est fils d'une analyse sociologique qui dit jamais l'antisémitisme disparaîtra en Europe et voilà, il faut créer un État juif. Voilà, je ne sais pas si je...
Oui, mais...
Oui.
Le troisième temple est un thème.
Alors, il y a des gens qui prient pour le troisième temple. Moi, j'ai toujours été frappé quand on va visiter au mur, donc voilà, et quand on passe sous le souterrain, là, etc. Il y a une belle maquette. Il y a un barbu là, qui nous explique. Il dit voilà, le premier temple, c'est ça. Alors, il fait une petite animation en train. Il y a donc la première colline, etc. Le premier temple, sur son peu, comme ça. Ensuite, le deuxième temple, donc le temple amélioré par Hérode, donc là, la maquette s'anime, etc. Et d'un seul coup, moi, j'avais été frappé, donc le temple a été détruit, bien sûr, actuellement, l'emplacement des boxés, des mosquées, Al-Aqsa, tac, 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 il positionne tout ça. Et, mais le troisième temple, et là, on le voit se baisser, il va chercher un truc, il viendra par le ciel, et il sera plaqué, et c'est assez spectaculaire de voir ce gars, enfin, qui a dû répéter le geste des milliers de fois, etc. Bon, moi, ça, personnellement, ça me fait bien rire. Parce que, alors, bon, je veux dire, quid du problème politique, on détruit ce qui existe actuellement sur l'esplanade des mosquées, comment ça se passe, c'est pas son problème apparemment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des milieux religieux, ultra-religieux, orthodoxes, ultra-orthodoxes, qui pensent qu'effectivement il y aura un troisième temple, et que ce troisième temple, ce sera une structure en dur comme le temple de Salomon, que les mosquées disparaîtront, etc. Il y a des milieux, on peut qualifier d'extrémistes, qui pensent ça. Et donc, on voit les images, d'ailleurs, on en est un petit peu trop, parce que c'est vraiment des ultra-minorités, mais comme c'est spectaculaire et que c'est toujours les minorités qui font toujours les ultra-minorités font du bruit, c'est toujours pittoresque de les voir, donc ils vont pieusement faire le pèlerinage, etc., enfin, occuper le. Je crois que plus personne de. Enfin, j'allais dire de sérieux, ne pense qu'il y aura un troisième temple, en tout cas sous cette forme-là. D'ailleurs, la Bible ne le dit pas, ce sera un temple pour toutes les nations. Ce ne sera pas nécessairement un temple en dur, c'est l'idée de l'universalisation des valeurs du judaïsme. Ça, oui, ça, c'est beaucoup de mouvements le portent. Maintenant, je pense que beaucoup de juifs, alors religieux, parce qu'il y a aussi tous ceux qui ne sont pas religieux et qui, de toute façon, pour qui ce n'est pas leur problématique, ne pensent pas qu'il y aura un troisième temple sous cette forme-là. Et que de toute façon, il n'y aura rien de miraculeux, et ils supposeraient qu'il y ait une paix, ils supposeraient qu'il y ait un accord. Enfin, je veux dire. C'est tellement les questions soulevées sont tellement innombrables que c'est pas ce qui est le plus intéressant. En tout cas, dans le judaïsme libéral, qui est quand même majoritaire sur la planète, la judaïcité américaine, c'est pas le troisième temple, n'est pas un débat. Mais oui, Pour certains, ça l'est. Il y a même, enfin, mais là, c'est même contre-productif ce que je dis, je me dévends un petit peu, mais pour vous montrer jusqu'où l'extrémisme, il y a des gens qui se préparent au retour des sacrifices. Donc ils s'entraînent avec des couteaux, etc. Il y a des associations, mais bon, c'est très minoritaire. Donc on vous dit effectivement que dans le délire extrémiste religieux, on peut trouver de tout. Mais de manière, je veux dire, objective, je pense que le troisième temps n'est vraiment pas du tout un débat central du judaïsme aujourd'hui, même s'il l'est dans des ultra-milieux tout petits. Donc voilà, j'ai pas d'idée de combien de temps j'ai pris pour parler de tout ça. Ah oui, donc bon, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est la disruption du mouvement rabbinique. C'est intéressant, parce que c'est intéressant d'un point de vue général, comment une religion menacée, quasi mort certaine, arrive à rebondir en réinventant totalement le logiciel. Donc on est passé d'un judaïsme des sacrifices et une caste autoritaire, détient l'autorité, à un judaïsme complètement démocratique, axé sur la prière, la halakha, la loi juive, le cadrage donc, par la loi de la vie juive, qui va s'avérer précieux, parce que c'est dans le judaïsme du ghetto et de la diaspora, c'est ce qui va permettre de maintenir une identité au peuple juif, alors même que le diplôme est complètement écrasé. Et donc un judaïsme de la Torah qui met l'étude au centre, la révolution herméneutique. Bon, il y aurait bien plus à dire, mais je pense que ça va figer un petit peu les grandes dimensions. Je veux parler d'une autre disruption, et de quelque part qui fait alors oui, la bibliothèque juive.
Vous voulez voir la fin, peut-être.
Oui, ça pourrait être une question plus particulière. Mais là il est pratique. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant du coup de faire le lien avec la situation. On fait un saut de quelques siècles dans le temps. Et quelque part, la deuxième disruption majeure de l'histoire du judaïsme, c'est la modernité. C'est l'impact de la modernité. Là, quelque part, on a quitté le judaïsme comme un judaïsme de la loi qui va s'avérer précieux, parce que quand les juifs vont être confinés dans le ghetto, qu'est-ce qui maintient l'identité juive? C'est effectivement le fait que la vie au quotidien est paramétrée par la loi. Il n'y a pas d'autre manière d'imaginer le judaïsme que de vivre la loi dans un ghetto. Le boucher cacher est à 2 mètres, le four à pain ou à matzot ou à pain azim est là. Et effectivement, c'est même magnifique de voir cette vie juive, cette chorégraphie juive de la loi juive qui maintient l'expérience juive tout au long du ghetto. Le problème du ghetto, c'est que les juifs, en tout cas en Europe, ont été relativement éloignés des révolutions culturelles qui ont, à la Renaissance, etc. Encore qu'il y a beaucoup de médecins juifs, encore il y a des astronomes, etc. Mais ce sont des individus exceptionnels, mais au niveau de la masse du peuple, bien que le peuple juif soit toujours resté très éduqué, parce que justement l'étude, mais éloigné des idées scientifiques, etc. Quand le ghetto tombe, quand de nouvelles idées se font jour, à savoir que peut-être les juifs sont des hommes comme les autres, et en tout cas peut-être appelés citoyens comme les autres, etc., à la fin du XVIIIe siècle, la modernité exerce un impact, un choc terrible sur les communautés juives, sur la manière dont elles sont organisées. Et là aussi, ça aurait pu être totalement détruit, parce que quand du coup un individu retrouve sa liberté, enfin, et qu'il est amené donc à avoir des trajectoires individuelles dans les sociétés qui lui en proposent, puisque en 1791, par exemple, les juifs français sont citoyens français, eh bien, il se produit une situation absolument délétère, extrêmement dangereux, c'est-à-dire que l'individu se retrouve en situation comparative. Il n'a jamais été dans un ghetto, c'est la loi juive, point final, c'est ça la vie juive, et il n'y a pas de regard de l'extérieur, il n'y a pas de distance possible sur ce qu'on est en train de vivre, la vie juive, c'est ça. Sauf que quand on est citoyen, que peut-être on travaille pour une administration qui nous demande de travailler le samedi, et qu'en même temps on a envie de rester un juif ancré dans la tradition, là ça bug. Il y a tout un tas de questions nouvelles qui naissent, deviennent, alors d'abord, des modèles de vie différents proposés. La vie sociale, c'est ça. Oui, il y a de la culture, oui, il y a autre chose. y a un autre, une autre civilisation que la seule civilisation juive, donc une situation comparative, et puis surtout des problèmes de valeur, des problèmes d'arbitrage incessants qui peuvent se résumer par comment, si je suis intéressé à être citoyen, comment être un authentique citoyen qui participe à tous les espaces culturels, spirituels, politiques qui sont proposés, et en même temps rester un juif de la tradition. Je laisse imaginer le nombre de dilemmes possibles, c'est bien ça qui se pose, et en tout cas la modernité a impacté les communautés, enfin les communautés ont été absolument impactées, il y a des lettres très très émouvantes de rabbins qui détenaient quand même le pouvoir de ce qu'on appelle le cherem, c'est-à-dire l'excommunication dont Spinoza avait eu à souffrir. Il y avait un réel pouvoir du rabbin d'exclure des gens de la communauté. Je peux vous dire que dans un milieu confiné, exclure quelqu'un de cela, c'était une mort sociale assurée. Et donc, quand il y a des lettres déchirantes de rabbins qui disent « Mais voilà, j'ai exclu un tel, etc. » Mais finalement, il est allé se reporter au tribunal civil qui lui a donné raison. J'ai plus le pouvoir. La manière dont était organisé le monde traditionnel, à savoir Kehilot, les communautés traditionnelles, avec une sorte de conseil d'administration religieux, cette culture religieuse, la halakha, encore une fois, qui cadrait la vie, etc. Tout ça s'écroule. Et là, en gros, là, je fais simple, il y a trois stratégies. Il y a trois stratégies, et c'est là où j'introduis les différentes sensibilités du judaïsme. Il y a une stratégie, enfin, qui n'en est pas une, c'est le degré zéro de la stratégie, c'est l'assimilation. C'est la fameuse phrase de Heinrich Heine qui dit « Le judaïsme n'est pas une religion, c'est un malheur ». Et, comme il le dit lui-même de manière cynique, enfin cynique, tout simplement lucide, la conversion, ou alors la disparition, la dissolution des nances, c'est le ticket d'entrée dans la société européenne. Il est vrai que ces sociétés européennes, quand bien même elles étaient généreuses et offraient la citoyenneté aux Juifs, il y avait des tas de domaines qui étaient exclus. Par exemple, il était impossible de faire carrière dans l'université allemande si on était juif. Donc il y avait une espèce de proto-citoyenneté, mais il y avait tout un tas de choses interdites quand même. Donc on peut comprendre ça. Donc l'assimilation, dont on sait qu'effectivement beaucoup de juifs se sont assimilés, ont cherché à s'oublier dans la société allemande, française, etc. C'est une histoire tragique parce que Léo Strauss l'a bien démontré, quand bien même on veut s'assimiler et s'oublier, c'est pas évident que la société environnante, elle, vous oublie. Et aller rechercher le juif en vous, et quand on voit l'histoire tragique des juifs allemands qui ont constamment essayé de dialoguer avec la société allemande, alors même la société allemande se redéfinissait autour de valeurs, de sang, d'histoire, d'autonomie, etc., c'était un petit peu compliqué, et sans même parler de la suite. En tout cas, c'est une stratégie possible. D'une manière religieuse, il y en a deux autres, je simplifie, parce que c'est un petit peu, mais ça nous permet de comprendre, l'orthodoxie. L'orthodoxie est vraiment une stratégie, je préciserai après comment historiquement ça s'est joué. Là, je le présente de manière un peu systémique, mais après, historiquement, ça s'est joué un peu différemment. Mais l'orthodoxie, c'est la position de le ghetto n'existe plus, on nous propose d'être citoyens, c'est formidable, mais c'est corrosif. Le judaïsme ne va pas survivre à cette histoire-là, parce que l'influence de la société environnante, les valeurs, les rapports hommes-femmes, la liberté, la permissivité, la culture profane, la science, etc. Enfin, ça dépend des degrés, mais tous ces points forts, tous ces marqueurs de la civilisation profane, etc., est corrosif du judaïsme. Et quelque part, pour maintenir le judaïsme comme l'expérience juive pure, en quelque sorte, eh bien, il faut réériger, je ne veux pas dire des murs invisibles du ghetto, mais en tout cas, il faut réhomogénéiser des milieux. Et donc, l'orthodoxie, au XIXe siècle, c'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, il y a quand même des rabbins qui théorisent ça. On accepte tout ce que la société a à nous donner, mais on essaye de maintenir la plus grande distance possible entre la société et le judaïsme, sous peine de disparaître. Donc, une vision un peu de la citadelle assiégée. Donc la stratégie un peu orthodoxe. Le judaïsme libéral va partir d'un présupposé différent en disant oui, on est intéressé à être citoyen, oui, on a envie de rester un pied dans la tradition, sauf que quand on met l'un à côté de l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc le premier point, c'est on accepte d'être les deux. Le deuxième point, c'est la lucidité de penser que tel quel, c'est pas compatible. Le troisième point, c'est la décision religieuse de dire alors le judaïsme doit évoluer pour s'adapter, selon quelle modalité, ça c'est encore à voir, etc., selon quelle procédure, etc. aussi, mais en tout cas, le judaïsme doit s'évoluer pour qu'un juif moderne, à savoir un juif qui est à la fois être citoyen et à la fois être authentique, puisse vivre de manière harmonieuse. Et donc le judaïsme libéral, c'est cette décision de, justement, de concevoir la halakha de manière un petit peu différente et en tout cas de la faire évoluer. Voilà un peu les trois stratégies qui se mettent en place. Historiquement, ça s'est passé en plusieurs étapes. Le judaïsme libéral est né en Allemagne au début du XIXe siècle, où il a pris une tournure très intellectuelle. C'est d'ailleurs intéressant de comparer l'histoire française et allemande. Je dirais que les juifs français au XIXe siècle n'ont pas produit des œuvres intellectuelles extrêmement fortes, tout simplement parce que, je vais dire, que tout nous avait été donné en 1791. On est les premiers en Europe à avoir eu la citoyenneté. Et par contre, le XIXe siècle et cette histoire magnifique de l'intégration des Juifs en France dans toutes les dimensions, économiques, sociales, politiques, les grandes familles, enfin, on voit seulement d'ailleurs les grandes familles, mais... Et donc, il n'y a pas eu de plaidoyer intellectuel nécessairement à mener. Alors que les Juifs allemands ont eu leur citoyenneté beaucoup plus tard, et ils ont écrit des livres, et ils ont bataillé, et ils ont cherché à démontrer que le judaïsme est une religion moderne, une religion rationnelle, qui...